Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse aujourd'hui, c'est avec Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès de Dorette BGC. Bonjour, à côté de vous, Alain Pitous. Bonjour, senior advisor pour Alfort Alpha. On va commencer avec Christine Lagarde et cette déclaration hier. Étienne Brack, bon, oui. La hausse des taux, c'est fini.
Oui, hier, elle a été auditionnée devant le Parlement européen. Alors, elle a été interrogée.
Je l'ai en son. Voulez-vous la passe?
Ah, bah,
vous voulez qu'on l'écoute?
Oui.
Alors, on l'écoute.
But we see no evidence yet.
Nous ne voyons pas encore de signes d'un désancrage des anticipations d'inflation ni d'effet de second tour qui justifierait une réponse de politique monétaire plus énergique à ce stade. Nous avons la capacité d'ajuster notre réponse au fil de l'évolution du choc afin de garantir qu'elle reste proportionnée.
Étienne, il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux.
Tout en disant qu'elle est data-dépendante. Hein. Réunion par réunion, hein. Toujours les banquiers centraux qui sont très prudents, qui ne veulent pas trop se mouiller. Mais en tout cas, là, hier, elle a très clairement dit, et de toute façon, avec un baril de pétrole à $75, c'était compliqué de dire le contraire, que les pressions inflationnistes allaient un petit peu se calmer, qu'elle a ancré les anticipations d'inflation avec la hausse de taux qui a été annoncée il y a une dizaine de jours, et qu'à court terme, je dis ces mots, il n'y a pas de raison d'avoir une réponse un peu plus énergique.
Alain Pitous, on a bien fait de faire 0,25.
Ah bah c'était une excellente idée, je pense. Blague à part, bref, il y a un demi-tour assez rapide, parce qu'en fait, si elle est effectivement data dependent, elle voit aussi que l'économie européenne n'est pas en grande forme, que le chômage commence à monter, que il y a certains pays qui sont alors pas encore en grande difficulté, on n'est pas encore en récession, mais on tangente une récession, on tangente une hausse du chômage, qui va avoir des effets sur la dette, enfin sur les finances publiques et sur la dette. Donc, un demi-tour assez rapide qui me paraît sain, au moins sur les paroles, et après on verra les autres.
Elle n'a pas dit qu'elle allait baisser les taux, Christian.
Non, elle n'est pas là, il ne faut quand même pas exagérer. Non, par contre, il y a un point important qu'on a, alors, que moi-même j'ai sous-estimé, c'est pourquoi ils l'ont monté finalement de 25 points de base. Parce que franchement, la situation, on savait que ça pouvait se retourner très vite, que l'effet énergétique était assez ponctuel. Hein. Ce qui les a vraiment fait réagir, a priori, c'est le fait qu'on a eu une inflation dans les services qui a nettement accéléré sur le dernier chiffre, hein, puisqu'on est passé sur un an de 3% d'inflation des services à 3,5%. Et donc, a priori, ils ont craint qu'il y ait eu vraiment un effet de second tour et finalement que le choc inflationniste. Alors ça, par contre, on commence à l'avoir maintenant avec les prix à production. C'est-à-dire que la hausse des prix du pétrole se sont décalés et se sont répercutés dans l'ensemble de la chaîne de production assez rapidement, beaucoup plus rapidement. Ça s'est diffusé beaucoup plus rapidement. Et donc, quand ils ont vu l'accélération des prix dans les services, ils ont vraiment cru qu'il y avait un risque de réaccélération des prix et d'un effet second tour. Donc, l'effet nouveau que nous a dit Mme Lagarde hier, c'est qu'a priori, le consensus au sein de la BCE est en train de rebasculer dans l'autre sens en disant on a peut-être surestimé cet effet de second tour parce qu'entre-temps, on a eu d'autres statistiques, notamment les statistiques sur les salaires qui montrent qu'il n'y a pas du tout d'accélération des salaires, qu'on n'est pas du tout sur ce phénomène-là. Et donc, on va falloir suivre une seule chose maintenant pour la BCE, l'évolution des prix dans les services. Est-ce que ça ralentit? Est-ce que c'était peut-être même un petit biais statistique et puis on a peut-être surréagi? Mais je pense que ça, c'est l'élément clé qui explique peut-être cette réaction. Maintenant, elle ne va pas échapper aux critiques. Pourquoi avoir fait 25 points de base? C'était trop tôt, c'était trop fort. Il n'y avait rien qui le justifiait fondamentalement. Même si elle nous a dit que ce n'était pas une assurance, sur le fond, elle a quand même du mal à justifier cette hausse de 25 points de base aujourd'hui.
Autre dossier de la journée, Étienne Brack, SpaceX.
SpaceX qui a perdu 16% hier, troisième séance consécutive dans le rouge. Souvenez-vous, le titre avait gagné 50% sur ses trois premières séances par rapport au fameux $135. Hein, c'est le prix auquel est rentré SpaceX en bourse. Bon, désormais, on n'est plus qu'à 14%. Alors bon, c'est pas si mal au bout de six séances, mais l'euphorie s'est quand même largement calmée autour de SpaceX. Hier, l'élément déclencheur, c'est le fait qu'ils vont faire appel au marché obligataire pour lever 20 milliards de dollars.
Ah non, c'est quoi votre regard sur SpaceX?
Alors, c'est une histoire, j'adore. Hein, le rêve
Mars.
De l'espace et tout, c'est vraiment génial. Alors après, on revient sur Terre et il y a deux éléments. Il y a effectivement des besoins financiers qui vont être colossaux, donc c'est un fait. Et puis, il y a un phénomène aussi technique, c'est le mur de gens qui vont commencer à vendre leurs titres dans les mois qui viennent. Donc tout le monde a pris conscience, les grands investisseurs ont pris conscience de ce phénomène-là. Il y a eu un engorgement au départ, parce qu'il y avait 5% du capital qui était offert sur le marché. Et puis au fur et à mesure, les gens se rendent compte que du papier, il y en aura, c'est pas la peine de se précipiter. Et moi, j'interprète ça, SpaceX, comme ce qui va se passer sur Anthropic ou OpenAI. C'est, on est sur le private equity côté, c'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs américains regardent ça sur un horizon très très long. Ils ont gagné énormément d'argent avec des introductions en bourse, avec des paris sur Nvidia, des paris sur Palantir, des paris sur des boîtes comme ça qui ont été, en fait, pas rentable pendant un moment, et puis bah, finalement la rentabilité arrive. Quand la rentabilité est là, ça devient un prix normal, et c'est un pari tant que le prix normal n'est pas atteint. Et donc bah, ils vont faire ce pari encore quelques temps sur SpaceX. Moi, je pense que
c'est quoi le prix normal?
Le prix normal, je pense qu'on va revenir sur SpaceX aux alentours de $100. Je pense que ça va être un peu au mois de septembre, on devrait être à peu près sur ces niveaux-là. Ça restera quand même encore cher, hein, par rapport à des critères classiques, hein. C'est-à-dire que si vous interrogez 200 analystes financiers classiques, aucun ne va vous dire que c'est un prix raisonnable.
Par rapport aux ventes, ça reste.
Ça restera quand même un pari, mais encore une fois, les investisseurs ont gagné tellement d'argent avec des paris de ce type-là dans le passé qu'ils peuvent prendre des positions. Alors encore, faut pas dépasser des poids du style 3-4% sur une valeur comme ça, mais c'est un pari, c'est vous parier sur Musk et sa capacité à atteindre ses objectifs.
Surtout que la plupart des banques ne peuvent pas donner d'objectifs de cours parce qu'elles ont vendu du SpaceX lors de l'introduction en bourse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des conflits d'intérêts qui sont énormes.
Oui, vendus en banquier d'affaires, quoi.
Oui.
Ouais. Christian.
Oui, alors après, plus globalement, je pense que le marché commence à prendre en compte que le secteur de l'intelligence artificielle est très dépendant, de plus en plus dépendant de l'argent facile. Et donc, si on commence à parler d'une banque centrale américaine qui est peut-être pas si colombe que ça, qui va peut-être remonter les taux, qu'on va voir, qu'on voit les taux longs américains passer à 4,50, ça marque les esprits, on voit que Elon Musk en a profité à plein, hein, il a levé de l'argent, il fait une émission obligataire, donc véritablement, il a un accès à un coût du capital particulièrement faible, donc lui, pour lui, c'est open, hein. C'est, il en a profité à fond, mais on voit que derrière, d'autres veulent en profiter, mais on commence à se dire que si on va vers une économie avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, ça va quand même devenir très compliqué, cette thématique de l'IA. C'est pas qu'elle est fausse, je parle pas de l'aspect, mais aujourd'hui,
il y a besoin d'argent facile.
Tout a été boosté par l'argent facile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez pas le vrai prix de votre intelligence artificielle, très clairement, parce qu'on amortit pas les processeurs, on voit qu'il y a une inflation. Je vais juste vous donner une statistique qui est assez impressionnante. La Corée du Sud nous donne dans les statistiques à l'exportation les exportations en valeur et en volume. Et donc, les exportations dans les semi-conducteurs en valeur sont en forte croissance, à deux chiffres, en volume, c'est en baisse. Ça veut dire que c'est que de l'inflation aujourd'hui dans les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud. Pourquoi c'est que de l'inflation? Parce qu'aujourd'hui, on a naturellement ces semi-conducteurs qui sont très demandés. Ça crée une très forte hausse de prix, mais les gens qui achètent les semi-conducteurs, oui, c'est les Microsoft, c'est les Meta, c'est les SpaceX, parce que SpaceX, c'est sa partie, sa division intelligence artificielle. Ils sont en train d'acheter hors de prix ces semi-conducteurs. Donc derrière, le retour sur investissement est quand même particulièrement incertain. Donc si je vous mets un coût de financement élevé, une inflation dans le coût des data centers, et que derrière, on aura peut-être un retour sur investissement, c'est peut-être une révolution, mais que derrière, finalement, ça sera très difficile de rentabiliser tout ça, ça crée un risque, et on est en train de pricer peut-être beaucoup plus de risques autour de l'IA, et c'est en train de monter aussi, peut-être, tout doucement sur les marchés aussi.
Alain, il nous reste 50 secondes.
Et alors, 50 secondes pour dire que MSCI et ses analystes ESG ont noté SpaceX hier,
ouais,
et triple C, hein, c'est-à-dire que c'est la plus mauvaise note possible.
C'est comme la Russie, non, c'est
voilà,
ça?
C'est à peu près comme la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine, donc ça situe un peu le niveau. Pour deux raisons, la première c'est la gouvernance. Bon, là il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour voir que bah, quand vous détenez 80...
C'est lui qui décide tout.
Il décide de tout. Donc il y a vraiment un sujet d'homme clé, bon voilà, c'est classique. Et puis l'autre point c'est les controverses, c'est-à-dire que rien n'est prévu chez SpaceX pour gérer les éventuels problèmes autour de l'aspect extra-financier. Donc, ce à quoi Musk va répondre fatalement, c'est que comme lui, il s'en fout complètement des problématiques de ESG, il va pas mettre un dispositif en place pour régler des problèmes qui, pour lui, n'existent pas. Donc, en attendant, c'est quand même un sujet parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont investis dans des fonds de ce type-là, de type ESG, qui ne peuvent, du coup, pas vraiment investir dans le fond, dans la valeur.
Merci beaucoup à tous les deux de venir ce matin dans la matinale de l'économie.